En gros, jusqu'à 1610-1620, Paris s'arrêtait dans les rues là-bas, c'était la rue Mazarine. La muraille se voit encore ici ou là, soit dans les parkings, soit en hauteur, enfin on la voit ici ou là. Il s'est passé vers 1610 à peu près quelque chose qui est assez complexe, mais enfin qui mérite d'être dit ici, c'est que la reine Marguerite de Navarre, donc l'épouse divorcée d'Henri IV, a acheté le terrain. Alors c'était complexe puisque théoriquement elle n'avait pas le droit de construire. On n'avait pas le droit de construire en dehors des murs. Bien entendu, tout le monde construisait allègrement, mais c'était une question de protection. C'est parce qu'il ne fallait pas que les envahisseurs puissent attaquer. Bon. Et elle a acheté le terrain qui était ici, donc qui en gros représente le terrain de l'Institut où elle a pu construire son hôtel. Et elle a aussi acquis tous les terrains qui étaient au-delà. Or, au lieu de construire, elle a eu l'idée, qui était la même idée que ce qu'avait au même moment Marie de Médicis au Luxembourg, c'est-à-dire qu'elle utilisait les terrains comme son jardin. Donc ce que vous avez ici, vous êtes ici sur les terrains de la reine Margot. Ces terrains allaient jusqu'à la Grenouillère. La Grenouillère, c'est à peu près le musée d'Orsay actuel. C'était donc de très longues allées qui partaient précisément d'une petite chapelle qu'elle avait fait construire au début de ces allées. Cette chapelle existe encore, elle est intégrée dans l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'église, il y a une petite chapelle à dos, ma coupole. C'est ça, la chapelle de la reine Margot. Quand vous regardez les plans du XVIIe siècle, on voit très bien que toutes les allées partent de là. À sa mort, elle avait fait le vœu de construire un couvent. Elle n'a fait que construire son jardin et sa chapelle. Quand elle est morte, elle n'avait rien construit du tout. À sa mort, donc, le terrain a été donné aux petits Augustins qui ont construit, sur souscription publique, cette fois-ci d'Anne d'Autriche, de la nouvelle reine, ils ont construit leur couvent. Donc vous êtes ici sur le terrain d'un couvent. Ce couvent des petits Augustins comportait donc d'une part une église qui a été construite entre 1610 et 1630, ou 1615 et 1630, qui est l'actuelle, et enfin, ce qu'on appelle maintenant la chapelle de l'école des Beaux-Arts, mais c'est faux, c'est pas une chapelle, c'est l'église, hein, c'est l'église du couvent. Ça a été un couvent relativement important, mais qui était éclipsé par le grand couvent d'à côté, c'est-à-dire le Saint-Germain-des-Prés, qui était lui un couvent énorme. Bon, quand vous voyez l'église Saint-Germain-des-Prés, ça n'est que la partie septentrionale, c'est même pas le tiers de l'église. Sur la rue de Rue Bonaparte, même quand vous sortez de la rue Bonaparte, il y a juste une partie de la façade. Tout le reste a été détruit sous la Révolution. Et ça, c'était le plus grand couvent, ben, pratiquement le plus puissant couvent de Paris. C'était là qu'étaient enterrés les Mérovingiens. C'était beaucoup plus important que le petit couvent qui était ici. Les moines de Saint-Germain-des-Prés sont très connus. Hein. C'est Mabillon, c'est les grands historiens du XVIIIe siècle, tandis qu'ici, il n'y a pas eu de célébrités qui ont été moines ici. Alors, ce qui est certain, c'est qu'à la Révolution, il n'y avait pratiquement plus personne. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose qui est très importante pour vous, pour votre histoire, c'est que les grandes allées, sitôt qu'elle est morte, Madame la reine Margot n'avait laissé que des dettes, donc tout a été confisqué par la spéculation, c'est-à-dire par Richelieu essentiellement. Donc tout ça a été confisqué, puis on a loti tout son jardin. Or, il reste de son jardin les allées. Les allées, c'est les routes toutes droites que vous voyez, qui vont, vous savez, la rue de Lille, la rue de l'Université, c'est ça. C'est les anciennes allées de la reine Margot, elles ont laissé cette trace dans Paris, c'est ce que je vous explique. À Paris, même quand quelque chose disparaît, il s'est réutilisé. Pour vous, c'est rien, mais quand on va à Pékin ou à Bucarest, dans des pays comme ça, tout est rasé. C'est-à-dire que dans les dictatures, on ne garde rien. On reconstruit dessus, il ne reste plus rien, sauf en souterrain et encore. À Paris, ça ne se fait pas. Donc toutes les grandes allées, c'est ça le souvenir. L'extension de Paris vers l'ouest, elle part d'ici. C'est à cause des... Enfin, à cause, ça aurait lieu de toute façon. Mais sur la rive gauche, c'est vraiment ça qui a lancé l'extension de Paris. Après, on a construit des hôtels particuliers sur les terrains de la reine Margot, qui étaient de plus en plus larges. Parce que c'était logique. Au début, c'était des petits hôtels, puis après, ils deviennent de plus en plus grands, jusqu'au Palais Bourbon, etc. C'est les hôtels les plus riches. Donc, vous avez... Maintenant, c'est devenu les ministères. En gros, les ministères ont confisqué tout ceci sous la Révolution, et c'est devenu les ministères en France. Donc, c'est quand même d'ici que c'est parti, tandis que c'est parti du Luxembourg vers le sud. Et puis, évidemment, c'est parti des Tuileries et du Cours la Reine sur la rive droite.